C'est un plaisir d'être là
et je voudrais simplement reconnaître aussi David Mumford qui a travaillé beaucoup plus longtemps dans l'église de Metz que moi, depuis presque sa naissance, pendant bien une quinzaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, j'ai le thème pour vous, les deux institutions scripturaires ou les sept sacrements. Ça parle vraiment de la contraste entre le pratique et l'enseignement biblique que nous suivons dans nos églises, les deux institutions, le baptême par immersion des croyants et le repas du Seigneur qui est célébré dans nos cultes, contrasté avec la pratique catholique de conférer la grâce pour arriver enfin éventuellement au salut dans le système catholique. Et je voudrais parler de ce thème. Parfois, on essaie de minimiser les cas entre la foi et la pratique biblique, entre guillemets baptiste, et la religion catholique en disant que ce sont plutôt des différences de forme et non de fond. En effet, c'est l'inverse. L'Église catholique pratique les formes dites chrétiennes, tout en se trompant de l'avis de Dieu en ce qui les concerne. Enfin, c'est Dieu qui a institué le plan du salut. C'est Dieu à qui appartient le ciel. C'est à Dieu qui appartient la demeure éternelle. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a l'autorité, le seul pouvoir pour dire comment accéder chez lui, comment demeurer auprès de lui. C'est lui. Bon, l'institution devrait être divine ou l'institution n'a aucune autorité. Et c'est présomptueux de penser que ça puisse arriver à glorifier ou accéder à Dieu. Et donc, la question c'est, quel est le système ou quelle est l'institution qui a été divinement ordonnée? Est-ce que Dieu sauve par ce système ou non? En étudiant le thème, les institutions ou les sacrements, j'ai fait des recherches sur ces idées, même ainsi que les rites spécifiés. Et je voudrais vous faire des observations. Pour celui qui n'a fait que lire la doctrine catholique, le catéchisme par exemple, j'en ai un là-bas, la religion catholique semble être assez logique et compréhensive, bien que très complexe. Des siècles d'études et de réflexions ont produit un système qui se passe pour être logique et plein de réponses aux questions de ses adhérents. Le seul problème est que le système, même s'il possède une certaine cohésion interne, manque ce qui est le plus important, d'être conforme au plan qu'a révélé Dieu dans sa parole. Et en fait, lire et étudier la Bible est la meilleure façon de découvrir le plan du salut de Dieu. C'est aussi la meilleure façon de démentir les revendications du système catholique en ce qui concerne les sacrements. Je voudrais traiter tout à l'heure quelques thèmes à ce sujet, mais je voudrais parler d'abord de la nature de ces deux institutions que Dieu a ordonnées, c'est-à-dire le baptême et le repas du Seigneur. Je voudrais vous donner une esquisse sur ces deux institutions. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a laissé deux institutions pour être observées par les croyants dans les églises locales. Il s'agit de baptême et du repas du Seigneur. Ces deux institutions montrent trois caractéristiques selon le Nouveau Testament. Chacun d'abord a été institué par le Christ lui-même. Chacune a été pratiquée par les églises primitives. Et chacune est expliquée dans les Épîtres. Il y a d'autres groupes qui réclament d'autres pratiques comme des institutions, telles que le lavage des pieds chez certaines personnes. Mais on ne voit pas que cela a été expliqué dans les Épîtres et cela n'était pas forcément pratiqué par les églises primitives. Donc, on voit que la Bible enseigne que ces institutions sont chacune un mémorial, un symbole et une prophétie. Un mémorial, un symbole et une prophétie. Elles jettent un regard en arrière à l'œuvre expiatoire accomplie de Christ, par Christ à la croix. Et Christ a institué chacune et ordonné que tous les croyants les observent. Ce sont des institutions et pas des sacrements. D'abord, quelle est la distinction entre une institution de Jésus et un sacrement? Une institution est ordonnée par Christ, était observée par les premières églises. Les observer est une question d'obéissance à son commandement, pas comme un moyen d'obtenir quelque grâce ou pour être sauvé. Par contre, l'enseignement religieux sacramental dit que les quelques rites sont des moyens sous forme physique par lesquels les hommes obtiennent grâce de Dieu. La Bible enseigne au contraire que la grâce ne dépend pas des œuvres. Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous lisons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a aucune œuvre, aucun rite, qui ne puisse conférer une grâce quelconque. Si la personne qui reçoit le rite, qui est le sujet de l'institution, si cette personne se trouve déjà dans la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est arrivé déjà dans sa vie, et il est obéissant, il obéit à l'institution comme un commandement de Christ, comme un signe de ce qui se passait déjà dans son âme intérieure. D'abord, on va parler du baptême biblique. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 28. Si quelqu'un peut chercher Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Passage très connu. Qui veut lire cela pour nous?
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
D'accord. Ça fait partie de la grande ordre de mission que Dieu a donné à son Église. Le baptême a été ordonné par Christ. Le baptême est le premier pas d'obéissance après le salut. Trouvons Actes chapitre 2, à partir de verset 42. Nous voyons le jour de la Pentecôte, après que l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. Donc, selon verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire la parole de l'évangile, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Verset 47. À la fin de la verset, nous voyons le verset. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le baptême était le premier pas d'obéissance à Christ après le moment du salut. Nous voyons que le baptême était une condition préalable pour l'entrée dans l'Église locale. Ils ont cru, ils ont été baptisés, et ensuite, ils sont entrés dans l'église locale en tant que membres, que nous venons de lire. Le baptême doit toujours suivre la conversion. Le rite de baptême n'a aucun pouvoir pour le sauver. On va examiner ce passage en profondeur un petit peu plus tard, mais lisons maintenant Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Donc, nous avons l'histoire où l'Évangile est annoncé pour la première fois aux païens. Okay? Est-ce que nous avons des personnes de souche juive qui sont avec nous aujourd'hui? Avons-nous des personnes hébreux? Non. Okay? Nous sommes tous des païens. D'accord? Et c'est ce chapitre qui nous est très important parce que ça montre la première fois que les païens ont reçu l'Évangile qui était prêché par les apôtres. Et la conversion qui était la conversion de ce monsieur Corneille et des siens nous est très important. Comme nous lisons que c'est Pierre qui a été appelé à annoncer la parole de Dieu à Corneille. Et donc à partir du verset 34, nous avons la prédication, l'explication de l'Évangile de la part de Pierre pour ces gens. Et donc, pour conclure son message, ou son explication, son témoignage, il dit dans verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui était établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tout ce qu'il coûtait sa parole. » Nous voyons qu'à ce moment-là, ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Et il y avait un signe qui était donné, c'est-à-dire ces personnes ont pu parler en langue étrangère qu'ils n'avaient jamais apprise avant, mais quand même c'était un signe ouvert de la réception du Saint-Esprit pour les païens, pour que Pierre et les autres sachent que ces païens ont reçu le même Saint-Esprit que les disciples juifs et les personnes juives avaient reçu le jour de la Pentecôte. Ce sont des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises avant, et ils ont pu les parler miraculeusement sans les avoir jamais étudiés. Et donc, c'était un vrai miracle. Et Pierre l'a reconnu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Regardons dans ce passage. Ces personnes avaient reçu le Saint-Esprit. Mais quelle est la signification de cela? L'apôtre Pierre parle de cet événement deux autres occasions quand il a donné un commentaire. Lisons maintenant dans Actes chapitre 11 quand Pierre est rentré. Après cet événement, et il voulait expliquer aux gens ce qui s'était passé. Actes chapitre 11, et verset 15. Pierre est maintenant rentré en Jérusalem, et maintenant il explique aux chrétiens juifs ce qui s'était passé. Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, c'est-à-dire la Pentecôte. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus avait dit juste avant de remonter au ciel. Il avait dit aux disciples, à Pierre et les autres apôtres, qu'ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur, c'est-à-dire aux païens, a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est-à-dire, Pierre identifie le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, exactement le même don que les disciples juifs et les personnes juives, le jour de la Pentecôte, avaient reçu. D'accord? Ils ont le Saint-Esprit, ils ont le baptême du Saint-Esprit, et ils avaient la repentance pour la vie, c'est-à-dire la repentance pour avoir la vie éternelle. Donc, vous voyez que c'était en fait le salut. Pierre prend, tout cela s'est passé sans l'eau de baptême, parce que l'eau de baptême est venue après ce moment. Okay? Le Saint-Esprit habitait déjà dans ces personnes avant même qu'ils ne soient baptisés par immersion dans l'eau. Lisons maintenant Actes chapitre 15 pour le deuxième commentaire de l'apôtre Pierre sur cet événement. Et donc, c'est la Bible s'interprète elle-même. La Bible est sa meilleure interprète. Si vous voulez interpréter la Bible pour vous-même, il vaut mieux consulter ce que la Bible dit sur elle-même avant d'arriver à votre interprétation privée. D'accord? Et donc, laissons Pierre nous instruire, laissons le Saint-Esprit par l'apôtre Pierre nous instruire sur ce domaine. Actes chapitre 15, verset 7. C'était le concile à Jérusalem qui était convoqué pour discuter la doctrine du salut. Comment une personne est-il justifiée? Comment une personne pécheresse, est-ce qu'il peut être justifié devant Dieu? Est-ce qu'il faut des rites, des œuvres supplémentaires, ou est-ce que la seule foi suffit? Verset 7. Pierre avait quelque chose à dire. Et donc, il s'est levé pour le dire. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et le dit, « Homme, frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Dans ce deuxième commentaire, il dit non seulement que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils avaient été, leur cœur ont été purifiés par la foi. Ces gens avaient entendu l'Évangile, ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils avaient le cœur purifié par la foi. C'est-à-dire, ils ont été régénérés, ou ils sont nés de nouveau. Pierre a dit tout cela est arrivé sans l'eau de baptême. Le baptême dans l'eau qui est suivi était un signe de ce qui s'était déjà passé dans le cœur, dans l'âme intérieure de ces personnes. Pierre a aussi écrit une épître qui parle exactement de cette même doctrine. Et trouvons maintenant le premier épître de Pierre, chapitre 1. Le premier épître de Pierre, chapitre 1, c'est un chapitre merveilleux qui parle, le sujet de ce chapitre, c'est le salut. Ça parle du salut dans toutes ses facettes. Ce chapitre est vraiment un diamant. Et nous voyons que vers la fin du chapitre, verset 22 ou verset 21. Verset 21 jusqu'à verset 25. Par lui, c'est-à-dire par Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Excusez-moi. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile est une parole qui vient de Dieu-même. C'est une parole qui, par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, donne la vie à ceux qui croient. Et donc, c'est la puissance de la parole même dans le cœur de la personne qui répond à l'appel de Dieu par sa parole. C'est par cela que Dieu transforme la personne. Et donc, la personne permet que Dieu entre dans sa vie. Et donc, c'est une nouvelle naissance. On voit que Pierre parle ici de la régénération. Il parle de cette purification intérieure que c'est la régénération. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes. » Et tout cela vient en écoutant la parole de Dieu. Où est-ce qu'on peut voir dans ce passage l'eau de baptême? Ce passage n'est pas du tout mouillé. Ce passage parle d'un lavage intérieur, amen, dans l'âme, amen, une œuvre spirituelle intérieure. Et si Dieu a permis que Pierre l'explique, c'est qu'il puisse être plus convaincant pour ceux qui respecterait peut-être la vie de Pierre, même s'il ne respecte pas la vie d'un autre homme. Donc nous voyons que Pierre donne un commentaire sur cet événement, sur le baptême, de ces trois façons Et nous voyons que ces personnes, ces païens, qui ont cru en Jésus-Christ, avaient la foi, repentance, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été régénérés, ils ont été purifiés dans l'âme, dans le cœur, sans le rite de l'eau de baptême. Comment est-ce qu'on peut refuser à cette personne l'eau de baptême? D'accord? Et c'est pourquoi le baptême a été ordonné pour ces personnes. Et donc ces personnes étaient de bonne volonté de suivre le commandement du Seigneur par la suite. Donc le baptême suit la conversion. Le rite de baptême n'a aucun pouvoir pour sauver. Mais le baptême est là pour que la personne qui a reçu Jésus mort, enseveli et ressuscité pour lui, pour que la personne puisse s'identifier avec Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité pour lui. Nous voyons que une fois qu'une personne croit en Jésus-Christ, il est commandé de se faire baptiser par l'immersion. Selon Galates chapitre 3, nous voyons que une partie de la signification. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Comme j'ai revêtu ce costume ce matin, donc je me suis fait baptiser, j'ai revêtu Christ. C'est quelque chose à l'extérieur, n'est-ce pas? D'accord? Le signe de baptême, c'est quelque chose physique extérieur pour témoigner, pour montrer que lui, donc que lui est mon sauveur. Et moi, je voudrais bien porter son uniforme, comme parfois j'ai un pince ici qui montre que je fais partie d'une certaine mission, ou j'ai un pince que je mets ici qui il s'agit d'un clou, et ce pince montre que Jésus-Christ a été cloué à la croix pour moi. C'est un signe, c'est un petit signe. Et donc la même chose pour baptême, c'est le signe que nous avons reçu le Seigneur Jésus et son sacrifice à la croix pour notre salut. Donc nous nous revêtons de Christ. Le baptême est donc une figure, un type de salut. Ce n'est pas la purification du péché, parce que le péché est déjà purifié quand on croit, quand l'action du Saint-Esprit agit dans notre cœur. Mais le baptême, c'est la réponse ou l'engagement de nous de montrer de témoigner aux autres que nous voulons suivre le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Comme on a entendu tout à l'heure de la part de M. Allardyce et du pape Jean-Paul, donc qui atteste, ce n'est pas lui qui a inventé le fait, c'était déjà le cas. Le mot baptême vient du grec baptizein. Et il signifie immerger, plonger, submerger. Et ce qui s'est passé dans l'époque du Nouveau Testament, les disciples ont été, les croyants ont été baptisés par immersion. Et sa forme est évidente dans les récits du Nouveau Testament. Trouvons simplement Actes chapitre 8, verset 38. Et c'est facile à montrer. À partir du verset 35, Philippe, qui était l'un des diacres de l'Église primitive, a été appelé par le Saint-Esprit d'aller se joindre à un certain groupe de personnes qui traversaient le désert. Et puis Philippe a monté dans un char avec un certain eunuque éthiopien. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonçait l'Évangile. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Simplement, nous voyons que les deux sont descendus dans l'eau. Est-ce qu'ils sont descendus les deux dans l'eau pour que l'un puisse mettre de l'eau sur la tête ou sur le front de l'autre? Non, pas du tout. Ils sont rentrés dans l'eau pour immerger la personne qui venait de croire. Nous pouvons voir que le symbolisme, la nature du baptême, c'est de montrer la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Trouvons maintenant Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 3 et verset 4. L'apôtre Paul appuie sur le baptême. Il appuie sur le baptême pour montrer que, après notre conversion, nous devons vivre une nouvelle vie. Parce que il y a une nouvelle vie en nous. Et donc, il rappelle le symbolisme du baptême pour, comme une image efficace, pour nous montrer quelle serait notre vie après notre salut. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême par immersion, c'est la seule forme de baptême qui montre la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ça se fait dans l'eau pour être une bonne image pour nous. Un jour, j'ai donné des conseils à un jeune homme qui voulait se faire baptiser. On a discuté ces passages. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on se sert de l'eau? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'on se fasse baptiser dans l'eau? Et j'ai dit, Jean-Marie, si vous voulez bien, je vous baptiserai avec de la terre, si vous voulez. Mais sur réflexion, il a dit, peut-être, il ne pensait pas que je puisse creuser aussi efficace pour le ressusciter. Et donc, il voit que le baptême dans l'eau, c'est un moyen, c'est un médium efficace et convenable pour préfigurer la résurrection de Christ. Donc, le baptême est un mémorial de la mort et de la résurrection de Christ, un symbole de sa relation avec Christ. Mais le baptême est aussi une prophétie de la résurrection du croyant avec le Christ. Donc, la Bible dit que quand on est immergé, donc on est mort avec Christ, mais ça préfigure aussi notre résurrection. C'est-à-dire, on n'est pas laissé, heureusement, sous l'eau, mais on est ressuscité, on sort de l'eau. Et c'est une prophétie de notre résurrection aussi. Verset 5 de ce même passage. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et nous serons aussi ressuscités. Donc, on voit que le baptême, c'est une ordonnance, c'est une institution instituée par Christ même, expliqué dans les épîtres, comme nous venons de voir, et qui était pratiqué par les églises primitives. Je veux savoir, est-ce que vous avez une question? Même, je vais vous laisser la possibilité maintenant de poser une question, plutôt qu'attendre jusqu'à la fin. Mais peut-être nous pouvons prendre quelques minutes pour des questions sur ce thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, vous voulez savoir quelque chose sur le baptême, ou peut-être sur la pratique des catholiques de baptême? Je peux expliquer la croyance aussi pour voir en comparaison si vous voulez. Quelqu'un a une question? Oui, Nicolas.
Pour les catholiques, le baptême a
salut. Oui, c'est l'initiation pour la vie chrétienne, selon l'Église catholique. Et c'est essentiel. Je peux vous donner un petit contraste pour l'Église catholique nous dit que c'est par le sacrement du baptême qu'une personne est purifiée de ses péchés et reçoit le Saint-Esprit. Catéchisme, j'ai ici, paragraphe 1279, nous dit « Le fruit du baptême, ou grâce baptismale, est une réalité riche qui comporte la remission du péché originel et de tous les péchés personnels, la naissance à la vie nouvelle par laquelle l'homme devient fils adoptif du Père, membre de Christ, temple du Saint-Esprit, par le fait même de baptiser et incorporer à l'Église, corps de Christ, et rendu participant du sacerdoce de Christ. » Est-ce que cela est effectivement ce qui est arrivé aux païens dans Actes chapitre 10? En fait, tout cela, même plus, c'est arrivé à ces gens, mais avant les eaux de baptême. Au moment du baptême du Saint-Esprit, au moment du baptême de baptême spirituel dans la personne, dans l'intérieur de la personne. Et donc, ce n'est pas par le moyen de baptême catholique qu'on entre dans la cour de Christ. Donc, nous avons vu ce passage et on a vu que tout ce que réclame l'Église catholique pour le baptême se fait effectivement le moment où on croit à l'Évangile, à croire en Jésus-Christ selon l'Évangile. Et donc, qu'est-ce que l'Église catholique peut nous enseigner au sujet du baptême? Ce qu'ils font, ils annulent la foi pour le remplacer avec un rite qu'elle dispense. Donc, okay. D'autres questions que vous auriez? D'autres questions sur ce thème? Okay. Je voulais parler de la deuxième institution aussi. Et même avant de faire ça, je voulais parler aussi de... Bon, l'idée d'un sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement? L'Église catholique je suis un ordre que je n'avais pas intention de faire, mais si nous pouvons trouver 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, s'il vous plaît. Où l'apôtre Paul parle de sa commission, de son ordre de mission. Et par cela, il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, la Bible déclare que les chrétiens sont des dispensateurs de quelque chose. Je voudrais simplement vous expliquer que ce mystère n'est pas un si grand mystère après tout. Il s'agit de l'Évangile. Trouvons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'Évangile, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une, bon, peut-être votre version dit une charge qui m'est confiée. Peut-être que votre version dit c'est une dispensation qui m'est confiée. En fait, le mot grec, c'est le même mot qu'on utilise dans un petit chapitre 4, verset 1. Ça veut dire dispensation. C'est-à-dire une charge, une dispensation que Dieu a donnée à Paul. Et quelle était sa charge? D'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Donc, il avait la charge de dispenser ce message, ce mystère. Parce que c'est un mystère jusqu'à ce qu'on le révèle. S'il est clair que Paul était chargé d'annoncer l'évangile, il est aussi évident que l'évangile est lui-même le mystère. Okay? Trouvons maintenant à chapitre 1 de ce même épître. En verset 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Chapitre 2, verset 7. Ce que je viens de lire, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Je viens de lire deux versets, je ne veux pas être confondu là. Chapitre 1, verset 23, et chapitre 2, verset 7. Donc, le message était Christ crucifié. D'accord? Et Dieu, dans chapitre 2, verset 7, il identifie cela comme la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Et trouvons simplement Éphésiens chapitre 6, verset 19. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Je m'excuse, je ne veux pas vous laisser confus. Et ce que je veux lui faire ici, c'est vraiment dévoiler ce mystère, cette confusion qui existe dans l'interprétation catholique sur la charge qui était donnée à Paul et les autres apôtres. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Le mystère de l'évangile. Quel est le mystère que Paul avait de charge, que Paul devait dispenser? C'était annoncer l'évangile. Tout simplement. Tout simplement. Et ce mot grec, mysterion, qui traduit normalement mystère dans nos Bibles, dans la Bible que vous avez devant vous, ça paraît quelques 27 fois. Et c'est traduit mystère tous les cas. D'accord? Mais si vous trouvez, okay, une Bible catholique, vous trouvez que parfois, ce mot est traduit par le mot sacrement. Okay? Je vous explique. Selon le sens ordinaire du mot mysterion, c'est un mystère qui est quelque chose qui est caché et doit être ensuite révélé. Les hommes sont ignorants de l'évangile jusqu'à ce qu'on le renonce. Fin de mystère. Si cela semble clair, c'est parce qu'on le prend de Bible au mot. Mais d'où vient la confusion? Paul et les apôtres savaient que leur charge était d'annoncer l'évangile. D'où vient la confusion? Quelques siècles après Christ et les apôtres, des complications se sont introduites dans la pensée et dans la pratique de certains qui ont malheureusement obscurci cette vérité simple. L'idée que l'Église devait dispenser des sacrements pour faire arriver aux membres, ses membres au salut, a pris la place de la prédication de l'Évangile donné par Dieu, celui du salut par le seul foi en Jésus-Christ. La confusion tourne parfois autour de ce mot mystère. Si vous avez lu les éditions de la doctrine catholique, vous savez que l'idée du mystère a une présence importante dans l'Église catholique. Le nouveau catéchisme est rédigé en quatre parties. Et donc le deuxième, c'est intitulé « Deuxième partie, la célébration du mystère chrétien. D'accord? Okay. Et ça parle du mystère pascal. Si vous êtes des anciens catholiques, vous avez entendu l'idée du mystère. Hein? Okay. Dans le Nouveau Testament, le mot grec, mysterion, paraît quelque 27 fois. Il existe une confusion fondamentale dans le système catholique au sujet de la traduction de ce mot. Cette confusion date du 4e siècle et la traduction de la Bible de son original grec en latin. D'accord? Le mot sacramentum en latin, qui vient du mot sacé, sacer ou sacrar, qui signifie consacré. Le mot sacramentum en latin est utilisé plusieurs fois par la version latine de la Bible, la Vulgate, vers la fin du 4e siècle. C'était traduit par Jérôme, le saint Jérôme. Et ça traduit le mot grec original mysterion, mystère. Tandis qu'ailleurs, cette traduction se sert du mot mysterium sans qu'on puisse reconnaître dans ce changement de traduction la moindre différence. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois, le mot grec mysterion est traduit par sacrement. 6 fois. J'ai une liste aussi des autres versets, si vous voulez voir plus tard. Ce mot mystérion, comme on a déjà dit, désigne une chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension, un mystère. Remarquons dans ce passage que ce sens ordinaire d'un mystère à faire connaître est perdu quand on le traduit par sacramentum. La plupart des cas, quand vous voyez le mot mystère dans votre Bible, vous avez le verbe avec à faire connaître, faire savoir. D'accord? Révéler, dévoiler, c'est l'idée qui vient avec le mot mysterium. Et l'apôtre Paul savait que la charge de donner à l'Église était d'annoncer l'Évangile qui est le mystère. D'accord? Mais il y a plusieurs cas où l'Église catholique se sert de ce mot sacramentum pour changer la charge qui est donnée à l'Église. Dans ce passage, ce sens ordinaire d'un mystère à faire connaître est perdu quand on le traduit par sacramentum, un mot dont le sens très éloigné de son étymologie serait développé dans les siècles subséquents par l'Église catholique. Par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Et nous savons que les théologiens de l'Église catholique, pendant le Moyen-Âge, pendant des siècles, jusqu'au Moyen-Âge et même après, se servaient plus de la version latine que des versions grecques pour la théologie, pour la méditation. Et si vous lisez la Bible en latin, chapitre 1, verset 9, d'accord, Dieu, verset 9, il nous a fait connaître le sacrement de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Non, ce n'est pas le sacrement de sa volonté. En fait, c'est le mystère de sa volonté. Mais, voici ce que les théologiens avaient à mériter. Chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du, normalement, ce mystère. Mais j'ai eu connaissance du sacrement sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Chapitre 3, verset 9. Et de mettre en lumière la dispensation du sacrement caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Aïe, aïe, aïe. Chapitre 5, verset 32. Vous vous demandez d'où vient le sacrement de mariage, d'accord, qui est pratiqué dans l'Église catholique? Chapitre 5, verset 32. Selon l'Église catholique, selon la version latine, ce sacrement est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et de là, l'Église catholique suit une sorte de logique tordue et circulaire, vraiment, pour arriver à se réclamer d'être elle-même un sacrement. Être elle-même un sacrement. Bon, il y a d'autres. 1 Timothée chapitre... Bon, Colossiens 1, 27. 1 Timothée 3, 16. Apocalypse 1, 20. Apocalypse 17, verset 7. Et ils auraient pu aussi traduire Mystère Babylone qui est écrit sur le pont de la grande prostituée. Ils auraient pu écrire traduire ça, Sacramentum là, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Okay. En substituant le mot sacrement pour mystère dans plusieurs passages dans les Épîtres, l'Église catholique a pu réclamer d'être elle-même un sacrement. Et d'être ainsi la seule dispensatrice de l'ensemble des signes ou des mystères dits sacrements qu'elle désigne. Voici la façon catholique de faire de l'Église même un sacrement. Dans le catéchisme, le paragraphe 774, on dit, le mot grec mysterion était traduit en latin par deux termes, mysterium et sacramentum. Ils sont justifiés. Il le constate, comme si c'est permis. Dans l'interprétation ultérieure, le terme sacramentum exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut, indiqué par le terme mysterium. En ce sens, le Christ est lui-même le mystère du salut. Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ, selon Augustin. L'œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante et le sacrement du salut qui se manifeste et qui agit dans les sacrements de l'Église, que les Églises d'Orient appellent aussi les saints mystères. Les sept sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce de Christ, qui est la tête dans l'Église, qui est son corps. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement. Aïe, aïe, aïe. Bon, on fait des grands pas dans un paragraphe, n'est-ce pas? L'Église ne justifie pas la traduction, et en fait, elle n'est pas justifiable. Elle a échangé l'idée biblique et divine, d'origine divine, d'un message à proclamer et à recevoir par la foi, contre un groupement de rites avec paroles qu'elle retient comme le seul ayant droit de les dispenser. En gardant si fidèle sans la Bible pendant des siècles, et en s'appuyant sur les versions latines corrompues, l'Église catholique a pu voir le développement du sacramentalisme, si je peux le dire. Déjà dès ce quatrième siècle, un penchant se montre vers l'idée moderne des sacrements comme des signes sensibles, paroles et actions qui réalisent efficacement la grâce qui signifie. C'est le signe quand on le fait physiquement, selon l'Église catholique, et quand on prononce les paroles convenables. Donc, il y a une grâce qui s'effectue. D'accord? Augustin est celui, 4e siècle, qui a commencé à préciser la notion du sacrement, dans laquelle il reconnaît un moyen objectif de grâce. Alors que jusque-là, on a surtout insisté sur les dispositions subjectives. C'est-à-dire, malgré la disposition de celui qui se fait baptiser ou celui qui reçoit le repas du Seigneur, donc, il y avait une grâce qui est conférée par le rite même, selon l'Église catholique. Et je vous dis, ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu est un Dieu personnel. Dieu nous a créés pour aussi être des personnes. Et Dieu nous a créés avec une intelligence. Dieu nous a créés avec une volonté, avec des sentiments. Et il a communiqué par les paroles que nous puissions comprendre, que nous pouvons comprendre. Et il voulait avoir une relation personnelle avec nous. Et donc il veut que nous le connaissions. Et qu'il veut nous connaître. Il veut se faire connaître à nous. Et donc Dieu veut que cette relation personnelle se fasse. Et donc, l'idée même des sacrements, des rites qui puissent conférer quelque grâce, milite contre le Dieu qui nous a créés en tant que personne. Voilà. Ce sacrement, ce mot sacrement, est de l'importance primordiale pour le système catholique. L'Église catholique se croit être seule autorisée de dispenser tous les mystères de Dieu et qu'elle transforme par la suite en sept sacrements qui confèrent, entre guillemets, la grâce. Combien l'Église catholique s'éloigne de la charge d'annoncer l'Évangile, le mystère de Dieu qui est maintenant révélé, pour substituer un système de rites qui exige pour elle la fidélité qui est réservée pour Christ même. Ok. Avez-vous des questions sur cela? Donc, j'ai des notes. Vous pouvez avoir une copie des notes par la suite si vous voulez, hein. Une liste de tout cela. Oui. Oui. Donc, nous tenons à ce qu'il y ait une liberté d'expression, mais qu'il y a un seul évangile qui sauve, et c'est l'évangile que Dieu, qui a son origine en Dieu. D'accord? Et si on corrompt la parole de Dieu, Dieu a prononcé quand même une malédiction sur ceux qui changent sa parole. Et donc, en fait, si nous lisons dans Galates chapitre 1, ce que l'apôtre Paul a dit au sujet de cet évangile, il estime très très précieux, parce que c'est l'évangile et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Amen.
Si on change l'évangile, les gens ne seront pas sauvés. Et donc, c'est l'intention de Dieu d'amener les personnes dans un rapport, dans une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas son intention de faire des gens des personnes qui simplement obéissent à une deuxième loi qui était donnée. Un deuxième jeu de loi. Non? Donc, verset 7. Verset 6, de chapitre 1. Je m'étonne que vous, il parlait aux Galates, les gens qui avaient, ils voulaient changer l'évangile pour ajouter un rite à l'évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui qui vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, peut-être les gens, peut-être certains humains ne pensent pas que ce soit une affaire trop sérieuse, mais quand même c'est Dieu qui a dit que ça mérite. Si quelqu'un altère l'évangile, donc il tombe sous la malédiction de Dieu. Et nous voulons vraiment garder l'évangile, la foi qui était donnée aux saints une fois pour toutes. Et donc, nous ne sommes pas là pour persécuter les gens, mais nous sommes là pour utiliser la parole de Dieu pour persuader. Et c'est notre charge. C'est notre dispensation. Yes. Est-ce que je condamne les catholiques? Non, je veux bien sauver les catholiques. Mais c'est l'évangile qui sauve les catholiques. C'est la parole de Dieu qui sauve le catholique. Mais si la parole de Dieu est altérée, et changée, et corrompue, donc, elle perd son efficacité. Ce n'est plus la parole de Dieu. Si je tords vos mots, parce que vous voulez que je vous cite, dans un tribunal, ou devant vos amis, vous ne voulez pas que je fasse quelque chose, et Dieu, quand même, il est de même. Donc, il veut être représenté correctement. Oui. Et comment est-ce qu'il juge? Trouvons Jean chapitre 4, Jean chapitre 12. On peut voir deux passages pour voir comment Dieu juge. Quelle sera la base, le critère? Verset 48. C'est Jésus qui parle. Qui peut cela pour cela pour nous? Vous voulez le lire? Haute voix, s'il vous plaît.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour.
Le critère du jugement sera: qu'est-ce que vous avez fait avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait avec la parole de Dieu? Est-ce que vous l'avez cru? Est-ce que vous l'avez gardé? Est-ce que vous l'avez annoncé? Trouvons maintenant Romains chapitre 1 pour cette même idée. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est par rapport à l'évangile. Par mon évangile, a dit Paul. D'accord? Ce n'est pas par rapport à l'évangile que corrompu ou changé que j'avais entendu de la part de quelqu'un d'autre et auquel j'ai cru sincèrement. Ça ne va pas passer. D'accord? Tout le monde a accès à une Bible. Tout le monde dans cette pièce, au moins. D'accord? Monsieur Huffman.
Je pense que dans ce sens-là, le début de la conscience, c'est pas le fait de juger les personnes. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, frère. Et justement, il révèle ce que la parole de Dieu dit. Et s'il y a une erreur de la part, par exemple, des catholiques ou d'une autre personne, ce n'est pas à nous de fermer les yeux et laisser les gens continuer dans l'erreur. Il faut que, quand même que nous proclamons la vérité. Et ce n'est pas une façon de, ce n'est pas de juger les personnes. On regarde les doctrines, et ce ne sont pas des personnes qu'on juge. Ce sont des doctrines qu'on juge, si vous voulez, à travers la parole de Dieu.
Exactement. On n'en veut pas aux catholiques. Mais quand même, on voudrait bien annoncer l'évangile, montrer ce qui est la vérité pour qu'il puisse se dégager de ce piège.
Okay. Je crois qu'une chose à laquelle on doit faire attention, c'est de ne pas confondre la liberté, tolérance et laxisme. Je crois que trop souvent, on ouvre la tolérance, on tombe dans le laxisme et on laisse les gens s'égarer, alors que la parole de Dieu nous encourage justement en tant que chrétien d'être le sel de la terre et être la lumière du monde. Et c'est là où on doit savoir dénoncer l'erreur. On n'est pas en train de dénoncer les gens, on est en train de dire on vous laisse les ânes ou quoi que ce soit ce jour-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'enseignement qu'on leur a donné n'est pas conforme aux Écritures, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est là où on veut les ramener vers la vérité et agir en tant que enfant de lumière, hein. On veut être le sel de la terre et amener ce à quoi Christ nous a appelé. Donc
il y a beaucoup de monde qui était déçu par les religions de ce monde. Que ce soit la religion catholique ou que ce soit un autre. Et ils pensent que cela, c'est la religion. Donc, ils ont fini avec. Mais quand même, Dieu a quelque chose de bon. Bon, si vous avez goûté l'évangile, si vous avez reçu Christ, vous savez que Dieu a un avenir merveilleux pour quiconque croit en lui. Hein? Et donc, vous savez la valeur de ce que vous avez reçu. Okay. D'autres questions? C'est bien de discuter, c'est bien de parler. Je vois un doigt comme ça et un autre doigt comme ça. Hein.
Non, non, moi je vais intervenir tout à l'heure, parce que de toute façon mon thème c'est la liberté de conscience. Hein. Tout à l'heure je vais intervenir sur la liberté de conscience, parce que je crois qu'il y a une confusion là. C'est vrai, que les baptistes font toujours la liberté de conscience, chaque homme est compétent devant Dieu pour déterminer sa foi, sa conduite. Ça c'est clairement la position des baptistes. Chacun doit se prononcer. Ce n'est pas la position des religions. Témoin de Jéhovah, c'est clair, c'est net, c'est comme ça, ne bougez pas, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas. Et l'Église catholique, ça a été comme ça pendant des années et des années, et dans une certaine mesure, elle pratique encore cela aujourd'hui. Hein, c'est beaucoup moins à chape de plomb que dans le passé. Les chrétiens baptistes, à travers les siècles, ont dit, chaque homme, face à Dieu, face aux Écritures, doit déterminer ce que doit être sa relation à Dieu, ce que doit être sa relation aux autres. Ce n'est pas ce que les religions ont dit. Les religions ont dit, c'est comme ça, vous faites ceci, vous faites cela. Et ceux qui ne faisaient pas subissaient les foudres du système religieux, à travers le pouvoir, le bras séculier, hein, c'était le roi, c'était les gouverneurs, etc. Et il faut savoir que les gens qui ne se pliaient pas au diktat de l'Église étaient punis et persécutés, mis à mort et tout le reste. Alors, dans ce contexte-là, les chrétiens disaient, quand on nous dit, mais non, tout homme est responsable devant Dieu. Tout homme doit choisir sa voie par rapport aux Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Si on enlève ce fondement-là, on n'a plus rien pour nous guider, ça devient subjectivisme. Ça devient la période des juges où chacun fait ce qu'il veut. Donc la parole de Dieu, c'est incontournable. Chaque chrétien doit regarder aux Écritures et par rapport aux Écritures, donc orienter sa foi, orienter ses pratiques. Donc quand on parle de cette liberté, hein, c'est la liberté c'est la compétence de chaque chrétien, de chaque homme à se prononcer devant Dieu par rapport à un système très coercitif. Mais en même temps, comme le montrait notre frère avec un certain nombre de versets, Dieu lui dit, moi je vais examiner toute chose à la lumière de la parole. Et c'est pour ça que nous disons, attention, nous le disons aux catholiques, nous le disons aux protestants, nous le disons aux juifs, nous le disons aux musulmans, nous le disons aux marxistes, nous le disons à quiconque, attention, il faut revenir vers la parole, il faut regarder la parole, parce que c'est là où Dieu s'exprime, c'est là où on a la vérité, c'est pas dans les interprétations particulières des uns et des autres, hors Bible, extra-biblique, là. Vous comprenez? Mais de toute façon, moi je vais intervenir là, dans un instant sur cette liberté de conscience, hein, auquel nous sommes très attachés.
Ok. D'accord, Billy.
Pour terminer là, ce que vous venez de dire, est-ce qu'un catholique a le droit d'avoir, de vouloir?
Non.
On n'a
pas entendu.
Non,
la question.
Est-ce que, bon, la question c'est que, est-ce qu'un catholique, bon, dans le cadre catholique, dans le système catholique, est-ce qu'il a le droit de croire?
Il y a un catholique qui marche dans la moula.
Oui.
Est-ce qu'il a le droit de croire ce qu'il veut croire?
Bien sûr. C'est sa liberté.
Il va t'expliquer.
Bon, nous disons ça.
Par rapport à nous, c'est sa liberté.
Nous, par rapport à son Église.
Non. Par rapport à Dieu, est-ce qu'il a le droit? Par exemple, il y a un témoin pour qui marche là. Il y a un musulman, il y a un catholique, il y a un juif, il y a un baptiste. Est-ce que c'est que les baptistes qui ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire? Ou est-ce que c'est chacun qui a le droit de croire selon ce qu'il pense ici? Si Dieu, qui enfin c'est le juge.
Ouais. Tout le monde a le droit de croire, d'accord? Mais c'est Dieu a ordonné que bon, ceux qui croient à l'Évangile seront ceux qui sont sauvés, et ceux qui ne croient pas à l'Évangile, selon l'Écriture, ne seront pas sauvés. Donc chacun a le droit de croire, mais il ne peut pas s'attendre à ce que Dieu accepte l'accepte sur la base de sa propre croyance. Si sa croyance n'est pas conforme à ce que Dieu dit pour entrer chez lui. Un seul chemin. Et c'est le propriétaire de la maison céleste qui désigne l'entrée.
Je crois que ça c'est toujours la même chose. C'est la question de la vérité. Où se trouve la vérité? Et on peut toujours, une chose qui m'a toujours choqué, c'est quand on regarde les autres religions, les autres croyances, les autres croix, on s'aperçoit toujours que l'homme a une grande part à accomplir dedans parce que c'est lui quelque part qui se gagne son salut. Alors que quand on regarde les Écritures, tout nous a été donné par grâce. Mais là, il y a une telle différence entre ce que dit la Bible et ce que disent les autres religions qu'on est amené à se poser des questions. Et quand on est convaincu par ce que dit la Bible, ben c'est clair qu'on va propager cette vérité. De toute façon, quelqu'un a dit la vérité, quelqu'un est en train de dire un mensonge. Il n'y a pas de système où c'est mitigé. Et quant à catholique, moi j'ai ramassé un petit traité la dernière fois quand j'étais à Vermont. J'ai trouvé très simple, mais très intéressant à la fois, où en fait l'auteur de ce traité cite comment on présente Christ hein, dans d'autres mouvements. Alors il cite ce qu'est le Christ des Mormons, il cite ce qu'est le Christ des Témoins de Jéhovah. Et pour vous donner un exemple, hein, dans un article de leur ouvrage, hein, que Dieu soit reconnu pour vrai, les Témoins de Jéhovah disent « La rançon pour tous ne donne pas la vie éternelle et n'en garantit point les bienfaits à aucun. » En d'autres termes, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est pas suffisant. On a besoin d'autre chose. Hein, et cette autre chose, ben, c'est la tour de garde. La science chrétienne, avec Marie Baker Eddy, qui a dit « Nul sacrifice, n'importe quoi, ne suffit pas pour payer la dette du péché. » Or, la Bible dit que ce que Jésus-Christ a accompli, il a accompli une fois pour toutes et c'est suffisant pour le péché de toute l'humanité. Vous prenez le catholicisme romain, et cela, je crois, c'était le plus choquant. Un prêtre a déclaré, Jésus-Christ accomplit presque tout pour notre rédemption, je dirais presque 90%. Quel contraste avec ce que dit la Bible. La Bible nous dit que Jésus a tout accompli. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il s'est tourné vers le Père, il lui a dit, tout est accompli. Alors, quand on voit le contraste avec ce que dit la parole de Dieu, je crois que le chrétien ne peut pas se taire. Il est obligé de présenter ces choses à des gens qui sont détournés de la vérité, que l'on emmène par wagon entier hein, vers l'enfer, parce que ça, c'est la réalité.
La différence sur le plan de la liberté, c'est que le chrétien ne prendra jamais les armes pour contraindre qui que ce soit à croire ce qu'il croit. Alors que toutes les religions, là où elles ont le pouvoir, et que ce soit l'islam dans certains pays, ou le catholicisme à travers les siècles, ou des formes de protestantisme parfois, hein, on cherchait à imposer par la loi, imposer par la force, imposer par les pressions de toutes sortes. Ils ont cherché à imposer leurs convictions aux autres. Nous disons simplement, voici ce que Dieu déclare. Regardez dans les Écritures, priez le Seigneur alors, pour que vous puissiez découvrir ces vérités fondamentales de la parole de Dieu. C'est là. On oblige personne. On invite les gens. On est convaincu que c'est la vérité. Mais ça ne sert à rien de forcer les gens à croire contre leur cœur ou contre leur gré. On voit bien ce qui s'est passé avec les religions. Les religions qui ont mis des étiquettes comme ça à la naissance à travers des baptêmes de nourrissons. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des millions et des millions de gens qui ont une étiquette catholique et protestante et qui ne croient en rien du tout. En rien du tout. Bon, les baptistes ont toujours dit, non, ce sont les choses, selon la parole de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie. Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie, alors on est baptisé, et on témoigne de sa foi, et il y a des témoins de Christ, donc, qui sont réels et authentiques, là. Et c'est cela que nous voulons communiquer aux autres, mais pas par la force.
Okay. Si, par exemple, bon, en ce qui concerne le 21, je vais lire du catéchisme. Le paragraphe 1277. Le baptême constitue la naissance à la vie nouvelle dans le Christ. Okay. Nous avons vu tout à l'heure dans Actes chapitre 10 que ces personnes ont été régénérées, nées de nouveau, avant de recevoir le baptême.
Amen.
Mais l'Église catholique dit le baptême constitue la naissance de la vie nouvelle dans le Christ. Un conflit qui a raison. Selon la volonté du Seigneur, il est nécessaire pour le salut. Le baptême est nécessaire pour le salut. Comme l'Église elle-même est nécessaire pour le salut. à laquelle introduit le baptême. Ça veut dire que pour la plupart de nous qui n'ont jamais été baptisés dans l'Église catholique, okay, ne peuvent pas être sauvés. D'accord? Selon l'Église catholique, leur catéchisme. D'accord? Parce que c'est, mais nous croyons, la plupart de nous, je crois, nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous l'avons reçu par la foi. D'accord? Ok? Mais, nous ne serons pas au ciel selon l'Église, selon le catéchisme. Mais, si nous pouvons demander encore la vie de l'apôtre Paul, bon, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 16 et 17, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 16 et 17, on peut dire, Saint Paul, selon les églises, selon les catholiques, quand Paul parlait de ce sujet dans l'église à Corinthe, en Grèce, il dit dans verset 16, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. » C'est une famille dans l'église. « Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela, selon la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Des paroles fortes étonnantes. Si le baptême est essentiel pour le salut, est nécessaire pour le salut, et constitue de nouvelle naissance, ce sont des paroles fortes étranges de la part de l'apôtre Paul. D'accord? Paul dit encore, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et donc, c'est un évangile à annoncer. Et que pensez-vous? Que pensez-vous? Et donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Okay? Si nous pouvons parler de la deuxième institution de Christ. Tout rapidement. Nous avons peut-être 10 minutes avant la fin de cette...
Oui, c'est ça. Moi, je dois intervenir en moment à
15. Ok. Je veux simplement montrer que c'est cette deuxième institution, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Christ a ordonné que ce repas soit célébré. Donc, en Matthieu chapitre 26, verset 26, nous avons un récit. De ce que le Seigneur a ordonné. C'était le soir même avant qu'il ait été trahi. Verset 26. Alors, c'est le soir avant la crucifixion. Jésus est encore vivant dans son corps. Il allait mourir le lendemain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, Jésus a ordonné que cela soit fait comme un mémorial, comme on a parlé des institutions. Trouvons 1 Corinthiens chapitre 11 où l'interprétation de cette institution est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, il réclame d'avoir reçu cette interprétation de la part du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Okay? En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Okay. Donc, nous voyons que c'est un mémorial, c'est-à-dire de rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous quand il est venu pour mourir à la croix il y a 2000 ans. Donc, les chrétiens, nous sommes des êtres humains, et bien que nous ayons le Saint-Esprit en nous, okay, nous avons besoin de grandir et de fortifier notre foi. Et donc, en le fait, dans ces moments comme ça, parce que Dieu veut que nous nous sondions, nous nous jugions nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas jugés, que nous ne soyons pas châtiés. Et donc, la Bible dit, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, Dieu veut que nous fassions le point régulièrement pour voir est-ce que nous marchons d'une manière digne du Seigneur. Comme l'exhortation plusieurs fois, maintes fois dans les Épîtres. Et Dieu veut que à ce moment-là, que nous nous mettions en règle avec le Seigneur, bon, avant de partager, avant de célébrer le repas du Seigneur. Parce que les gens dans l'église de Corinthe, ils prenaient le repas d'une manière indigne, d'accord? D'une manière égoïste, d'une manière gourmande, d'une manière bon, avec les péchés dans leur vie. Et donc, le Seigneur veut éviter d'avoir nous châtier avec un châtiment paternel pour que nous puissions marcher d'une manière digne de lui. Donc, le repas du Seigneur, c'est institué par le Seigneur, okay, et il a été célébré dans les églises locales, comme dans l'église de Corinthe. Le repas a pour but de se souvenir de la mort de Christ. Les aliments sont des symboles du corps brisé et du sang versé de Christ. Et le repas du Seigneur est aussi une prophétie de son retour pour nous et de notre rassemblement futur et notre repas avec lui au ciel. Donc, nous voyons que l'Écriture sainte nous enseigne de pratiquer le repas du Seigneur. L'observation correcte nous apprendra à haïr le péché et à marcher près du Seigneur constamment. Donc, ce n'est pas un sacrement, parce qu'on est sauvé. En fait, on est appelé à nous juger nous-mêmes, à se juger soi-même, okay, afin de ne pas être châtié. Et même si on est châtié, ce n'est pas un châtiment qui est comme la condamnation que le monde reçoit. Le monde, c'est-à-dire les non-croyants, seront condamnés et ils auront une punition, un châtiment éternel. Mais pour les chrétiens, même s'il est désobéissant, même s'il est indigne du repas du Seigneur, même s'il marche d'une manière indigne, donc le pire qu'il puisse attendre, c'est d'être châtié d'une manière paternelle. Et donc, qui peut être repris pour aller au ciel tôt dans sa vie à cause de sa désobéissance. Mais quand même, même s'il subit ce châtiment, ce n'est pas la même chose que la condamnation que le monde va recevoir. Il est quand même sauvé. Et donc, nous voyons que c'est un repas qui est là comme faisant partie de la discipline de qui doit régner dans les assemblées, dans les églises locales. Est-ce qu'on a une question? Ok, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour, si vous voulez des notes, si vous voulez des informations supplémentaires.